Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue dans le carnet de région, toute l'actualité en région Languedoc-Roussillon, futurement Midi-Pyrénées et nouvelle région donc Occitanie. Un rendez-vous d'information présenté par différentes radios associatives de la région Languedoc-Roussillon. Les centres d'accueil et d'orientation questions dans l'Hérault et le Gard. On parlera également dans ce carnet de région de l'édition 2016 de Cirque en Marche, organisée entre autres par la Verrerie d'Alès, pôle national Cirque Occitanie. Nous parlerons également des 70 ans des foyers ruraux du Gard. Les familles des prisonniers font l'objet d'une réelle attention de la part du milieu associatif. Une rencontre régionale des structures d'accueil était organisée à Carcassonne lundi dernier, 17 octobre. Être à la fois propriétaire et client d'un magasin, c'est désormais possible. Enfin, du côté de l'Office de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lodévois et l'Arzac, on lance une carte de fidélité pour l'ensemble des commerces du territoire. Et enfin, nous ferons la visite des grottes des Canalettes au bord de Villefranche de Conflans. C'est parti pour le carnet de région. Démanteler la jungle de Calais, la volonté du gouvernement s'annonçait depuis des semaines. Elle est à l'œuvre depuis lundi 24 octobre. Les exilés du Calaisis sont acheminés par bus dans des CAO, centres d'accueil et d'orientation, un peu partout en France. Sur le territoire du Languedoc-Roussillon, 11 de ces centres sont sollicités. Francis Garnier, responsable du CAO du Vigan dans le Gard, nous explique ce qu'est un CAO.
Alors un CAO, c'est donc effectivement un centre d'accueil et d'orientation qui permet à des gens qui viennent exclusivement du Calaisis, de Calais et de Dunkerque, de venir faire un moment de répit. C'était initialement le terme utilisé à la place du CAO, centre de répit. Donc notre travail là va être effectivement de travailler avec eux leur projet migratoire, qui va être de les informer sur leurs droits. Trois possibilités s'ouvrent à eux en règle générale, qui sont soit un retour sur Calais et ils viennent simplement se reposer, reprendre des forces, travailler la question de la santé si nécessaire. Donc ça c'est la première des solutions. La deuxième des solutions c'est pour certains une aide au retour et à la réinsertion dans le pays d'origine, qui se fait avec l'aide de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou une demande d'asile pour ceux qui le souhaitent. Donc on est sur des statistiques qui tournent autour de 80% des personnes accueillies en CAO font une demande d'asile. 10% à peu près rentrent dans leur pays d'origine et à peu près 10% aussi font un retour vers Calais pour rejoindre l'Angleterre.
À 25 km du Vigan, l'ouverture d'un CAO sur la commune de Saint-Bosile-de-Putois dans l'Hérault provoque l'inquiétude d'une partie des habitants du village. Mi-octobre, la préfecture annonçait l'arrivée des 87 migrants au centre des lutins cévenols géré par le groupe SOS Solidarité. Le maire Michel Isser dénonce le manque d'information et de concertation de la part de la préfecture. Il déplore également le changement de vocation du centre.
Il est important que vos auditeurs comprennent que le lieu d'accueil est un lieu qui s'appelle les lutins cévenols, qu'il a été financé par l'État, par la région, par le département, pour être un centre de vacances et de tourisme. Autrement dit, ces lutins cévenols sont un centre de richesse pour la commune de Saint-Bosile et pour la collectivité. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est donner une autre image et qu'on change d'image, puisqu'en définitive, on passe d'une image d'accueil à une autre image.
Mais est-ce que vous voulez dire par là que l'image serait négative par l'arrivée de ces migrants ?
C'est vous qui le dites.
Non, je vous pose la question.
Moi, je dis simplement que Saint-Bosile est un village d'accueil. Et quand on se veut village d'accueil, on est un village responsable.
Vous parlez quand même de risque de trouble à l'ordre public. Alors j'aimerais avoir des précisions là-dessus. Quand vous dites cela, ce serait des troubles à l'ordre public de la part de qui alors ?
Qui sont les populations de migrants ? D'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Je n'en sais rien. Donc je dis que le risque à l'ordre public peut venir éventuellement de ces personnes dont on ignore tout. Je pense que ces gens sont des gens que je souhaite discipliner. Mais ça, c'est un vœu que j'exprime. En tant que responsable de la force publique, je n'ai aucune certitude. Quand je connais les habitants de mon village et que je leur dis qu'il va y avoir 87 jeunes migrants célibataires qui viennent sur le village, les gens de Saint-Bosile ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas, le premier réflexe, c'est la peur.
Si beaucoup d'habitants sont effectivement gagnés par la peur, d'autres voient la venue de migrants à Saint-Mauzil-de-Putois comme un devoir de solidarité et même comme une chance pour le village. C'est le cas de Mélanie, à l'origine de la page Facebook Saint-Mauzil Solidaire.
C'est aussi pour montrer qu'à Saint-Beau, les gens sont d'accord pour accueillir les migrants de manière positive et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Un autre message que celui diffusé par la mairie, alors si
voilà,
j'entends bien.
Voilà, qui est un peu anxiogène, au contraire. Et puis de toute façon, on est bien obligé de les accueillir avec ce flux migratoire, il a lieu. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas leur demander de retourner d'où ils vont. Puis on se rend compte que oui, il y a une certaine peur ambiante de la part d'une certaine partie, notamment de la mairie. Je suis sûre qu'une fois que ce sera un peu dans les tuyaux, entre guillemets, ce sera, voilà, ça roulera, les gens sauront qu'il n'y a pas de danger, et au contraire, qu'on peut s'impliquer, et que ça peut peut-être mettre une plus-value pour le village, enfin, j'en suis certaine. Même.
Ça peut être une richesse. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut être une richesse?
Il y a forcément à gagner, c'est par la différence qu'on est plus solide et qu'on va se compléter, et puis qu'on va apprendre, etc. Donc au contraire, il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en servir, il faut l'accueillir, voilà, l'embrasser.
Après d'âpres négociations avec la préfecture, le maire de Saint-Beauzil-de-Putois accepte finalement la venue d'un effectif deux fois moins important en affirmant Saint-Beauzil redevient une terre d'accueil. Ce jeudi 27 octobre, 43 exilés soudanais se sont installés au centre des lutins Sevenols. Au Vigan, le CAO fonctionne depuis fin février avec 10 places. 9 supplémentaires sont prévus depuis le démantèlement de la jungle. Clémence Boisson, adjointe aux affaires sociales, se réjouit de l'obtention du statut de réfugié pour une partie des migrants accueillis et de leur bonne intégration.
Deux jeunes gens déjà ont obtenu leur statut de réfugié. Et en même temps, c'est des situations tellement compliquées que heureusement qu'ils ont reçu ce statut. On a un jeune homme érythréen qui avait quitté son pays depuis 10 ans. Donc voilà, enfin, il va pouvoir s'installer en France et réfléchir à son avenir. Et on a une autre personne qui est un papa de 4 enfants. Et toute sa famille et son épouse sont en Afghanistan. Donc peut-être aussi, il va pouvoir réfléchir à son avenir plus sereinement maintenant. Il faut signaler que sur les personnes arrivées au Vigan, il y en a qui le lendemain ou le surlendemain sont reparties à Calais. Voilà, il y a des personnes qui veulent vraiment rejoindre de la famille ou faire leur projet au Royaume-Uni. Donc là, on ne peut pas les empêcher de repartir. Et au Vigan, il y a une seule personne qui, au bout de plusieurs mois, est repartie aussi à Calais. Mais sinon, ils sont extrêmement contents de leur accueil au Vigan. À plein de titres, donc l'accueil administratif avec un suivi par la CLED, l'accueil bien sûr des bénévoles et des personnes qui les entourent. Après, en général, ils vont sûrement repartir vers des grandes villes. Hein. Je n'ai pas eu vent de quelqu'un qui souhaitait poursuivre sa vie au Vigan, on ne sait jamais. Ce qui fait une différence également au Vigan, c'est que parmi les bénévoles, il y a des personnes qui donnent des cours de français ou d'alphabétisation. Donc français, langue étrangère ou alphabétisation, ce sont que des bénévoles, donc qui ont lieu 3 fois par semaine. Les réfugiés ont fait vraiment de beaux progrès depuis leur arrivée et ça leur fait un lien social, des rendez-vous hebdomadaires. C'est vraiment très important aussi pour leur intégration.
C'était un sujet de Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est ce vendredi 28 octobre que débute sur l'arrondissement d'Alès la 11e édition de Cirque en Marche, et ce pour une semaine complète de déclinaison des arts de la piste. Cette édition pourrait ressembler aux précédentes avec ses temps forts, ses compagnies, artistes et acrobates connus ou émergents, sauf que depuis le 1er janvier de cette année, la Verrerie d'Alès, pôle national Cirque Occitanie, organisateur de l'événement avec la scène nationale du cratère, a changé d'équipe et de direction, plaçant à la tête de cette structure une femme, Sylviane Manuel. Dès son arrivée, l'énergique et souriante directrice de la Verrerie a souhaité réorienter le pôle national cirque vers de nouveaux territoires. Sans écarter l'important travail de diffusion en région légué par son prédécesseur, Sylviane Manuel a souhaité ancrer mieux et plus la Verrerie sur ses bases territoriales naturelles. Ainsi, cette 11e édition de Cirque en Marche rayonnera en partenariat sur plusieurs communes de l'agglomération alésienne, comme l'a exprimé Sylviane Manuel au micro de Radio Grille Ouverte.
J'ai été nommée en janvier, donc voilà, ce sont des idées, des marqueurs que j'ai pu mettre, mais effectivement, la tendance, l'orientation de Cirque en Marche, c'est bien qu'il concerne la totalité de l'agglomération et qu'on puisse aller dans des endroits et faire aussi masse de spectacles et de donner un peu plus d'envergure à Cirque en Marche, qui jusqu'à présent travaillait plutôt le côté écrin, sortie de création, à la verrerie, avec une belle programmation toujours, mais là, il s'agit vraiment de plus faire sortir ce festival, qui était d'ailleurs plus un temps fort qu'un festival. Voilà, donc c'est l'orientation. Et puis voilà, c'est tout un processus de partenariat avec les communes de l'agglomération qu'on a approché très vite et avec lequel, avec peut-être les plus confiants, les plus fidèles, les choses se sont faites. Mais je pense qu'à terme, il y aura encore plus de partenaires à Cirque en Marche, en tout cas, je l'espère, de profiter de la venue de beaucoup d'artistes pour les avoir chez soi. Ils vont venir ensuite à la verrerie pour certains, selon les dispositifs techniques embarqués et puis aussi les capacités du public. Voilà, ça peut permettre de très belles choses un peu partout dans l'agglomération. On n'y est pas, c'est un premier pas, c'est une première étape et c'est vrai qu'elle est déjà belle.
Outre l'agglomération alésienne, Sylviane Manuel s'est également tournée vers des communautés de communes proches de la capitale Sévenol, telles le Pays Grand Combien, terre d'accueil depuis 30 ans de la compagnie Mécanique Vivante, ou apporter à la communauté de communes 16 Cévennes de nouvelles propositions artistiques.
Mécanique Vivante nous ouvre ses portes avec l'appui de la communauté de communes et ça c'est formidable parce que c'est un très beau lieu, on va l'adapter évidemment pour accueillir du public et puis là-bas on va accueillir en coplateau. C'est un peu aussi une nouveauté, il faut voir que la verrerie d'Alès n'est pas spécifiquement un lieu de diffusion. Sa mission première, c'est d'accueillir des artistes en création, en recherche, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rencontres au plateau, pour aller voir des étapes de création. Et il m'a semblé que dans un festival même, il fallait aussi des étapes de création. Vous verrez souvent des coplateaux avec des premières parties qui sont en fait des étapes de travail, donc des options qui sont prises pendant un temps. Et là, en l'occurrence même, à la Maison de l'eau à Allègre-les-Fumades, il y a un projet de résidence qui est encore plus rare que de faire de la codiffusion, c'est d'arriver à faire en sorte que les artistes soient aussi en résidence longue dans l'agglomération et pas uniquement à la verrerie. Donc là, c'est le cas par exemple à la Maison de l'eau où il y aura Extravaganza, donc un travail de Jordi Querol tout à fait surréaliste et assez dingue, très très rigolo, mais qui sera en étape de travail en première partie de Urban et Orbeach, qui sont deux travaux qui se font un peu écho, mais Urban et Orbeach est créé depuis très longtemps, tourne depuis très longtemps. Voilà l'exemple d'un coplateau. Et ce qu'on aura donc à Mécanique Vivante pendant deux soirées, c'est le même principe et c'est très intéressant pour un public parce qu'il va avoir deux travaux en à peu près l'espace d'une heure, une heure et quart. C'est une autre manière d'aborder la soirée, elle paraît plus riche.
Cette configuration de travail de la verrerie d'Alès préfigure les nouveaux partenariats que l'équipe souhaite impulser, rythmés de temps forts inédits qui verront le jour au cours de cette saison du Cirque 2016-2017. Un sujet proposé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte. C'était les 70 ans des foyers ruraux du Gard avec Magali Roucouli, animatrice de la Fédération des foyers ruraux du Gard. Elle nous parle de la restitution des actions entreprises par les foyers ruraux du Gard durant cette année anniversaire. C'est l'opération Ose ton village. Ça se passait à Saint-Jean-du-Gard le 22 octobre dernier.
En marchant vers la mer, donc, on part des Cévennes, on a l'association de Saint-Étienne-de-l'Homme qui a présenté tout son patrimoine autour des capitelles. Ensuite, on a les associations plutôt dans les vallées Cévenoles de Mialet, qui a présenté tout le patrimoine autour de l'architecture des moulins à eau, tout ce qui existait il y a fort longtemps dans les Cévennes. En face, nous avons la même chose, mais autour de tous les moulins qui sont au bord des Gardons. Plus loin, accès, une association de Meyran a travaillé à récolter des images autour d'une action qu'ils ont menée avec les associations et ils en ont fait un petit livre. Ça a été un travail de partenariat entre des adultes et des ados. Ils ont descendu la 16 en radeau et ils ont filmé toute l'histoire. Plus loin, on a la ville de Villevieille, donc on se rapproche de Sommières et du Vidourle. La ville de Villevieille a récolté la mémoire de ses habitants et en a fait une belle exposition qui raconte et qui retrace le patrimoine. De même, en face, le CAUE, par contre, lui, nous a brossé l'ensemble du département. C'est des architectes qui sont réunis pour travailler autour de l'urbanisme. Dans le cadre du département, c'est une association qui travaille sur l'architecture et l'urbanisme dans le département du Gard. Donc eux ont brossé le département du Gard au travers de tous ces paysages et nous ont présenté les garrigues, l'Écosse, la Camargue, les bords de Rhône, voilà, au travers du paysage. Donc de belles images aussi, mais elles qui retracent l'ensemble du département. Donc on a cheminé des Cévennes vers la mer. Et on a pris l'avenue des Cévennes à la mer. Voilà. La thématique était regard de territoire au travers de l'œil de la vie associative. On y revoit le patrimoine, mais aussi on a pris un autre cheminement. On a trouvé que c'était important, puisqu'on a beaucoup, on se retrouvait aussi autour du thème de l'eau. Donc on a pris un deuxième axe qui s'appelait « Au fil de l'eau dans le département ». Donc il y a des associations qui ont plus pris l'angle de vue autour de l'eau. Par exemple, Accès pour tous, et, qui était un club ado, et qui est sur Meyran, près de Bessèges, ont travaillé avec des jeunes pour aller au fil de l'eau. Et pareil pour Lédignan, les jeunes du village de Lédignan avec l'association Alaska ont travaillé en partenariat avec la mairie pour travailler sur un projet intercommunal sur... on travaille sur le zéro phyto, on travaille sur l'environnement, on travaille sur la qualité de l'eau dans le village. Comment on le fait passer à nos habitants? Eh bien, les ados ont fait de grands panneaux et ont monté une randonnée autour de ce thème. Donc, c'est comment on allie la jeunesse et l'engagement des jeunes sur la vie du village. Voilà, et ça a été un projet qui a permis ça. Et ponctuellement, nous avons des animations. Donc là, il va y avoir un flash mob proposé par une association. Il y a des ateliers de création. Il y a des espaces animés pour les enfants. Il y a des associations qui font des projets avec des familles qui proposent des restaurations, qui vont financer des projets de loisirs. Voilà, c'est le village dans sa vie la plus complète, avec ambiance à la clé. Voilà, on entend à présent, là c'est l'association Loisirs Sport Danse qui propose de faire un flash mob. On a travaillé avec toutes les associations à ensemble travailler une chorégraphie. Et on filme tout ça et on va l'envoyer sur Facebook. Il faut rester aussi dans le mouvement du temps. Les expositions sont un peu figées et à côté, on travaille sur « je bouge un peu ». Et puis le futur aussi, on va laisser trace, on va filmer, on va faire de la vidéo. Il va y avoir des conférences inter-associatives. On va essayer d'y inclure les groupes de jeunes et les élus du département, ainsi que les élus communaux. On va leur demander de travailler de l'argumentation et non pas des propositions ou des affirmations. On va leur proposer un thème et ils vont être surpris par « je dois travailler non pas à convaincre, mais à regarder sous un autre angle de vue ». Voilà, on va essayer de partager la parole. Voilà. Il y a un moment de partage de parole intensif sur le village. Voilà.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gard,
Héro,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La Framafad Toulouse organisait lundi une rencontre à Carcassonne. Il s'agit de la Fédération régionale des associations de maisons d'accueil pour les proches des prisonniers. Cette journée a permis d'échanger sur ses pratiques et ses soucis, de profiter d'une information sur la justice restaurative. Le point avec le président de la Framafad Toulouse.
La vie dans nos prisons en France pose de sérieuses difficultés avec cette surpopulation dont nous parlons tant et qui peut-être verra en France la construction de quelques prisons. Beaucoup plus concrètement, il existe de nombreuses associations de bénévoles qui s'occupent des familles qui sont en attente de parloirs, des familles de prisonniers, souvent en situation de détresse. Une réunion régionale avait lieu à Notre-Dame-de-l'Abbaye ce lundi 17 octobre. La parole tout de suite à l'organisateur de cette rencontre, c'est Jean-Louis Grenier, président de Framafad Toulouse.
Cette rencontre s'adresse essentiellement aux bénévoles qui participent aux accueils des familles dans les différentes associations de la région pénitentiaire qui regroupe exactement la région Occitanie. Il y a également quelques invités qui sont essentiellement les quelques visiteurs de prison et des représentants de l'association Auxilia. Auxilia est une association qui intervient pour les formations par correspondance dans les prisons. La régularité environ, c'est 2 par an. Oui, la Framafad est l'échelon régional qui correspond à la direction interrégionale des services pénitentiaires située à Toulouse. dont nous sommes les correspondants au niveau régional de toutes les questions qui touchent l'accueil des familles. Les structures d'accueil devant les établissements pénitentiaires sont différentes suivant la date de création de l'établissement. Dans les prisons anciennes, l'accueil des familles n'était pas prévu, il n'y avait pas de local prévu à cet effet, dont les associations se débrouillent comme elles peuvent avec les moyens que les municipalités en général accordent ou d'autres solutions de location dans certains endroits. Dans les établissements beaucoup plus récents, type Béziers, type Villeneuve-les-Maguelones, eh bien, le bâtiment d'accueil des familles est prévu devant la prison, et donc là nous sommes logés dans les locaux de l'administration pénitentiaire, et les choses se passent beaucoup mieux parce que les familles le connaissent, c'est un local adapté et qui est juste devant. Et en particulier, lorsqu'un parloir s'annonce, il y a un appel au haut-parleur et les familles sont certaines de ne pas manquer le parloir, ce qui n'est pas le cas à Carcassonne en particulier. Mais cette rencontre, en fait, est une rencontre d'information un petit peu générale pour élargir notre culture sur justement le sujet de la justice restaurative.
Et ma dernière question concernant la Framafad, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles qui adhèrent, qui se portent volontaires pour justement ce service particulier ?
Le nombre de bénévoles dans les associations est variable suivant les types d'établissements et suivant les lieux, mais de façon globale, nous sommes un petit peu à la recherche de bénévoles, parce que intervenir dans le milieu carcéral, ce n'est pas très porteur ou très développé dans les médias en général. Et par rapport à l'actualité, on a quand même un peu de difficultés, dont les personnes intéressées peuvent se manifester. Nous serons ravis de les accueillir.
C'était le président de la Frama de Toulouse qui réunissait lundi dernier les associations d'accueil de familles de prisonniers. Un reportage de Nathalie Dessos de RCF Pays d'Aude. Être à la fois propriétaire et client d'un magasin, c'est désormais possible. C'est le principe du supermarché coopératif. Un concept proposé par l'association La Cagette à Montpellier. Elle lance un appel au financement pour équiper son local. On peut y trouver de l'épicerie, du commerce équitable, mais aussi des produits frais de la région. Un concept en plein essor que nous explique Maxime Touel, membre de l'association.
On se base sur un modèle donc, qui existe à New York depuis 40 ans et qui arrive aussi à Paris en ce moment, parce que le supermarché parisien ouvre ce mois-ci. Eux, ils ont déjà constaté qu'il y a une baisse de 20 à 30% en gros des prix à qualité équivalente par rapport à des produits bio ou des produits non bio. Donc il y a un réel intérêt puisqu'en fait on prélève une marge fixe de 20% sur chacun des produits qui vont permettre en fait d'assurer les frais de fonctionnement du magasin uniquement, et tous les bénéfices qui sont réalisés par le magasin sont réinvestis. Pour être client aujourd'hui, il faut être membre de notre association, et plus tard on va se transformer en coopérative, donc il faudra prendre au moins une part sociale et en plus donner 3 heures de son temps par mois. On a 442 membres, je crois. Ça représente un volume de à peu près 120 commandes par mois. Les gens, en fait, passent leurs commandes une fois par mois sur notre site internet. Au bout d'une semaine, on clôture la vente pour ensuite passer les commandes auprès des fournisseurs, et les gens viennent rechercher leurs produits encore une semaine après. Et donc, on a bien donc une vente par mois pour le moment, et on va tendre vers 2 ventes, puis se transformer en épicerie et en supermarché qui sera ouvert tous les jours sur le long terme.
Mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette épicerie coopérative ? Maxime Touel nous fait visiter les locaux de La Cagette.
On commence par donc le premier rayon, donc c'est essentiellement donc de l'épicerie sèche, donc vous allez avoir du riz qui vient de Camargue, vous allez trouver du vrac aussi, tout ce qui va être riz, pois chiches, des choses comme ça qu'on va acheter en gros et qu'ensuite on va réempacter. Ici, nous allons avoir des biscuits, des confitures. Si on se déplace un peu plus par ici, on a un peu notre rayon commerce équitable. Donc on est à la fois sur du salé et sur du sucré. Et l'objectif, c'est d'avoir cette gamme un peu complète que vous allez pouvoir trouver au supermarché. Tout ce qui va être fruits, légumes, fromage, yaourt, tout ça, c'est vraiment autour de Montpellier. Dans un local qui fait 100 mètres carrés, divisé en deux, une partie de 50 mètres carrés où on se trouve ici, c'est donc l'épicerie, c'est le local de distribution du groupement d'achat. Et on a 150 mètres carrés de bureaux de l'autre côté. Le projet de La Cagette, c'est de l'aménager en quelque chose d'un peu plus professionnel. Pour se dire que d'ici aussi un an et demi, on sera à mon avis plus ici, puisque là on est sur un petit local pour nous, et si on veut être ouvert, il nous faudra un local à peu près entre 500 et 1500 mètres carrés.
La campagne de financement, c'est jusqu'au 28 novembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site lacagette-coop.fr. C'était un sujet d'Alice Bertia de RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
L'Office de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lodévois et l'Arzac lance une carte de fidélité pour l'ensemble des commerces du territoire. L'objectif, inciter la population à consommer localement, comme nous l'explique Michel Ferry, présidente de l'Office de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture.
L'objectif premier de l'Office, puisque pour faire court on va dire l'Office, c'était d'accompagner l'économie du Lodévois-Larzac, de l'accompagner, de trouver des idées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évasion de clientèle, puisque c'est ce qui se passe dans le Lodévois-Larzac comme dans toutes les intercommunalités, dans toutes les villes. Donc là, aujourd'hui, nous avons mis au point la carte de fidélité, que l'on appelle la carte Sochic. Le principe, c'est donc de cumuler des points qui se transforment en euros et que l'on peut par la suite utiliser dans n'importe quel commerçant ou artisan adhérent. Voilà. Pour lancer cette action, ce qui était important, c'est de faire au départ une action promotionnelle d'envergure. Eh bien, il y aura un bon d'achat de 50 euros cumulé sur la carte qui sera attribué au mois d'octobre, au 31 octobre, à la personne qui aura consommé le plus grand nombre de fois avec sa carte. Au mois de novembre, nous reproduisons la même opération, 50 euros qui seront cumulés sur la carte du client qui aura fait le plus grand nombre d'achats dans les commerces et artisanats Lodévois-Larzac, et ensuite un bon d'achat d'une valeur de 200 euros cumulé sur la carte pour le samedi 10 décembre, justement. Pourquoi 10 décembre ? Parce que c'est pour permettre justement à une personne de pouvoir bien préparer les fêtes de Noël.
Pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent consommer dans ces commerces qui proposent cette carte, comment peuvent-ils se renseigner pour savoir quels commerces participent à cette action ?
Alors, il y a l'édition d'un petit fascicule sur lequel figurent tous les commerçants et artisans adhérents. Ils présentent leur commerce et ensuite, vous pouvez, sur la devanture de leur commerce, les identifier par une affichette, une vitrophanie, qui vous dit, bien évidemment, ici, nous prenons la carte Sochic. Il y aura aussi un stock de cartes disponibles à l'Office du tourisme. Justement, disons, les visiteurs de passage, les personnes qui viennent en vacances dans le Lodévois peuvent avoir également leur carte pour consommer sur le Lodévois et profiter également des avantages de la carte.
Pour bénéficier de la carte, pour les consommateurs, c'est fastidieux, il faut des pièces...
C'est d'une simplicité. Il suffit de remplir un petit questionnaire, son nom, son prénom, son adresse mail, si on le souhaite. À partir de là, le commerçant vous donne la carte, elle est immédiatement active.
Les commerçants ou artisans souhaitant participer à cette action nommée carte Sochic doivent bénéficier d'un terminal bancaire ou d'un accès internet dans leur établissement. C'était un sujet de Radio Lodève. Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants déguisés entreront gratuitement dans les grottes des Canalettes, situées dans les Pyrénées-Orientales, non loin de Villefranche-de-Conflans. FM+ a rencontré Béatrice Delonca, la gérante des grottes des Canalettes.
Béatrice Delonca, bonjour.
Bonjour.
Béatrice Delonca, vous êtes la gérante des grottes Canalettes dans les Pyrénées-Orientales à Villefranche-de-Conflans. Villefranche-de-Conflans, c'est... elle toute seule une ville touristique, mais vous, vous lui apportez un petit plus.
Les grottes des Grandes Canalettes, on l'appelle le Versailles souterrain des Pyrénées-Orientales. Pourquoi ? Parce qu'elle regroupe toutes les concrétions existantes sous terre. Et c'est vraiment un site exceptionnel des Pyrénées-Orientales. Une grande diversité de pierres de concrétion. Elle regroupe vraiment tout ce qui puisse exister sous terre. Donc la partie aménagée de cette grotte fait 1 km aller-retour. On peut visiter seul, donc il y a son rythme. Il faut compter quand même 1 heure de visite. Et c'est vrai que c'est un site qui est visité par des personnes de tout âge, autant des petits que des grands, des familles, des individuels, des groupes de troisième âge, des associations. Voilà, c'est toute l'année. Sauf au mois de janvier où nous avons donc la fermeture annuelle de ce site.
C'est finalement une ancienne grotte et une nouvelle grotte que vous appelez Grande Canalette. Il y a vraiment deux espaces différents qui sont gérés de façon différente.
tout à fait. C'est donc deux grosses et grandes canalettes qui sont ouvertes quasiment toute l'année, sauf donc au mois de janvier. Et les anciennes canalettes qui ouvrent uniquement juillet-août, en sachant que bon, les canalettes qui ouvrent que juillet-août sont un peu plus petites, elles font 500 mètres aller-retour. Contrairement aux grandes canalettes, on descend super, puisque les canalettes, les anciennes canalettes, c'est l'ancienneté d'une rivière. Donc on ne peut pas visiter seul, c'est pour ça qu'on fait des visites guidées uniquement. Et il faut savoir que ces deux grottes se rejoignent par le monde souterrain, hein, dont les spéléologues font des sorties régulièrement hein, dans ces grottes pour aussi faire avancer, ils recherchent un petit peu s'il y a d'autres couloirs, d'autres cavités, voilà.
Pour
il y a toujours des spéléos qui essayent de... Bon, à ce jour, c'est vrai qu'il y a 33 km de réseau souterrain connu sous la montagne qui abrite dans les grandes canalettes et les canalettes, ce qui est énorme.
Pour l'automne qui arrive, quelle est votre actualité dans les grottes des grandes canalettes ?
Alors là, pour l'automne, donc pour les vacances de Toussaint, entre autres, nous organisons durant les fêtes d'Halloween donc une petite animation qui est que donc tous les enfants qui arrivent déguisés aux grottes des grandes canalettes se voient l'entrée offerte donc par la sorcière qui est à l'entrée. Hein. Et donc ça crée, c'est vrai que les enfants adorent se déguiser et puis ils se voient offrir des bonbons à la sortie, voilà. Donc ça c'est durant les vacances jusqu'au 2 novembre inclus.
Jusqu'au 2 novembre inclus, les enfants non seulement sont les bienvenus mais entrent gratuitement dans les grottes des canalettes. Il suffit qu'ils soient déguisés.
Où ils arrivent déguisés, alors pas forcément déguisés complètement, hein, il suffit d'un petit masque ou d'un petit maquillage, voilà. Et on leur offre l'entrée... durant donc toutes ces vacances de la Toussaint.
Et régulièrement, vous proposez des animations dans les grottes des Canalettes, à Villefranche de Conflans.
Voilà, on essayera de faire des animations pour chaque période de l'année. Donc, pour ce qui est du mois de décembre, donc il y aura certainement un Pessèvre qui fera une représentation aux Grandes Canalettes. On n'a pas encore déterminé le jour. Et ensuite, pour l'année prochaine, il y aura la chasse aux œufs de Pâques dans la grotte. Enfin, voyez, on va essayer de mettre en place des animations tout le long de l'année. Voilà, c'est notre un nouveau projet parce que il est vrai que pour l'instant, on n'avait pas mis en place ce genre de projet puisque nous avons repris la société familiale depuis peu.
Depuis peu, donc tout ça se met en route au fur et à mesure du temps.
Tout à fait. On va essayer de créer une dynamique en même temps et de se diversifier un petit peu aussi puisque bon, les gens sont en demande de ça.
Eh bien, merci Béatrice Delonca pour les grottes des Grandes Canalettes à Villefranche-de-Conflans. Bonne saison.
Merci beaucoup.
C'était le carnet de région, toute l'actualité en région Languedoc-Roussillon et prochainement avec Midi-Pyrénées, la nouvelle région Occitanie. Un magazine réalisé par différentes radios associatives de la région. Ce mois-ci, c'est Radio Aviva qui en assure la rédaction en chef. Très belle journée à l'écoute de votre radio préférée.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.